Qu'est-ce que le nihilisme et qu'est-ce que la démocratie? Et quel genre de lien entretiennent entre ces deux choses, le nihilisme et la démocratie? Alors pour la démocratie, eh bien, chacun la sienne. Elle renvoie non pas à une réalité qui serait politique, sociale, historique, culturelle, mais en fait à une pléiade de réalités, de représentations. Une galaxie de définitions en fait, qui désigne des objets contigus, mais également distincts les uns des autres. Un mot, un même mot, pour des choses très différentes. Deux exemples. Il y a la démocratie comme forme politique, par désignation de représentants élus par une base de citoyens. Ça, c'est une acception du terme démocratie. Et il y a, d'autre part, la démocratie comme aspiration, c'est autre chose, comme lutte et comme espoir, espoir des sans-voix, des opprimés, à se faire entendre, à la fois individuellement et collectivement. Là, on ne parle plus d'une institution, on parle d'une idée, hein, d'une idée qui fédère les gens. Démocratie comme geste du désir et comme et geste du verbe et comme dramaturgie de l'épiphanie, de la manifestation de la justice. C'est la vox populi lorsqu'elle tonne et lorsqu'elle gronde, lorsqu'elle conteste, lorsqu'elle revendique et qu'elle s'enivre elle-même de la vague qu'elle est, se creusant encore davantage dans cette conscience qu'elle prend d'elle-même. Cette démocratie-là, c'est un souffle donc, c'est une aspiration, c'est une force. Et elle a son moment, son surgissement, son creusement, son déferlement, et puis son reflux, et enfin son calme, et son étal, pour finir. Cette démocratie-là, ce sont des poussées de fièvre, des accès, plus ou moins éloignés les uns des autres, et pris dans de longues décennies de la vie monotone et résignée, dans les longues décennies du nihilisme, justement, et de l'oubli. Oui, oubli de ces moments de reviviscence de l'espoir, mais également oubli de l'espoir lui-même à l'origine de ces moments d'insurrection. Alors Heidegger, le philosophe allemand compliqué, disait à propos du nihilisme, l'essence du nihilisme réside dans le fait que l'on ne prend pas au sérieux la question du néant. Le nihilisme, c'est l'essentiel non pensé à l'essence du néant. Bon, alors si vous y comprenez quelque chose, vous m'appelez, hein. Mais on peut tout de même comprendre ceci dans ce qu'il dit. Il nous ouvre une piste, en fait, ce Heidegger, Martin Heidegger. Le nihilisme est donc, selon lui, selon ce qu'il dit, dans l'anéantissement de la pensée et non dans le non-être objectif du monde. Le nihilisme, ce serait donc l'incapacité d'opérer un distinguo, d'établir une dynamique entre être et non-être. Ce serait une espèce de paralysie de la pensée, de paralysie de la volonté, un genre de pulsion de mort. Parce qu'il y a une différence entre penser le néant et néantiser la pensée. Entre penser l'oubli et oublier la pensée, c'est pas la même chose. Entre penser la mort et tuer la pensée, c'est pas pareil. Ah ben oui, non, penser le vide, vider la pensée, etc. On peut s'amuser comme ça. Vouloir le néant ou ne rien vouloir, hein. Et c'est ça le raisonnement du nihiliste, en fait. Puisqu'il n'y a rien, j'en fais le constat, hein, c'est évident, il n'y a rien, eh bien, je vais vouloir ce rien. Je vais m'inscrire dans l'orthodoxie. Le nihilisme de l'échange généralisé des marchandises et de la monétarisation globale de l'existence. Cela ne propose aucun sens, le monde dans lequel nous vivons. Cela ne va nulle part. C'est un enfermement qui ne promet aucune libération, bien que Marx affirme le contraire, mais enfin, bon, c'est un autre sujet. Nihilisme de l'art contemporain. Ah, l'art contemporain, destruction des vieilles valeurs, destruction des valeurs esthétiques, de représentation et de perpétuation de l'existence, en fait, de l'art contemporain dans le vide de son non-sens. L'art contemporain préfère vouloir le néant plutôt que de ne rien vouloir, c'est-à-dire disparaître. Moi, je pense qu'il ferait mieux de disparaître, mais il ne veut pas. Parmi les autres sens du mot « démocratie », il y a aussi celui qui l'associe, qui l'équivaut au « souverain bien ». On repart sur la démocratie, là. Lorsqu'on dit d'une chose, d'un événement qu'il est démocratique, ou à l'inverse, qu'il n'est pas démocratique, on fait servir démocratie aux catégories du bien et du mal, qui par définition ne sont pas relatives et ne souffrent donc pas de discussion, et partant ne valent pas la peine qu'on les pense. La question « qu'est-ce que la démocratie ?» n'est pas un objet de la pensée, car cela reviendrait à se poser la question du bien et du mal, et du même coup, à les relativiser. À tout le moins, Ce qu'une telle réflexion commencerait par faire sur la démocratie serait de dissocier l'idée de démocratie d'avec l'idée d'un bien quelconque et de rendre ce concept politique, la démocratie, à ce qu'il est normalement, à ce qu'il doit être, un objet de la pensée soumis à toutes sortes d'évaluations, et non pas un critère du bien et du mal. Et ce n'est pas là d'ailleurs une des moindres contradictions de ce système qui prétend défendre la liberté de penser que d'être structurellement un dispositif qui empêche et qui interdit la pensée, qui invalide la pensée lorsqu'elle s'attache à penser le terrain qui la délimite. En d'autres termes, on peut penser ce qu'on veut tant que ça n'a pas de conséquences réelles. On qualifierait de nihiliste quelqu'un qui remettrait en cause les valeurs démocratiques sous prétexte qu'il ne croit en rien. Or, ce n'est pas tant qu'une telle critique ne croit en rien, qu'elle dénonce le rien, le néant de la croyance elle-même en la démocratie. Alors, on nous demande toujours de croire en ce qui est le plus incroyable, hein, la non-intervention, la main invisible du marché, l'autorégulation optimale du fonctionnement politique par lui-même, en dehors de tout acte volontaire et décisionnel, c'est-à-dire en dehors de tout fait historique. Mais les réflexions que je viens de vous livrer procèdent aussi, chers amis, chers auditeurs, de ce que j'ai écouté à ce sujet quelques philosophes professionnels. Et ils ont un petit peu déteint sur moi. Et on peut entrer dans des arguties sans fin au sujet du nihilisme, dans des raffinements subtils qui sont une façon, eux aussi, de ne pas vouloir en découdre avec la chose. Et je te livre ici, cher auditeur, l'état de mes réflexions au moment où je les forme, dans leur état de gésine pour certaines, dans leur état provisoire et évolutif pour beaucoup. Et la valeur de ce que je fais, si valeur il y a, réside davantage dans l'exercice libre de la pensée, avec ses recherches, ses hésitations, ses impasses, mais également ses gigantesques panoramiques que l'on découvre au détour des chemins, donc réside, disais-je, davantage dans le libre exercice de la pensée, dans l'essai, donc, hein, au sens originel du terme, que dans le déroulé d'une vision du monde préformée, que dans l'énoncé d'un système de conviction. Mettre ma pensée à l'épreuve de la chose, à l'épreuve du réel, d'un problème, est ce que je tente de faire, avec plus ou moins de réussite selon les cas, dans ces chroniques que vous avez la patience et la bonté d'écouter jusqu'au bout. La culture, certes, oui, c'est de la miel, mais la miel, avant d'être un produit fini, c'est aussi un lent et patient processus d'élaboration qui se nourrit de ce qu'il rencontre en chemin. Discontinuons donc cette chronique, puisque nous le permettons et que nous revendiquons même l'exercice de la discontinuité comme un coq à l'âne désirable. Alors, le nihilisme est l'aquabon qui nous saisit lorsque nous nous rendons compte que tout est vain. Dans le panopticon diabolique imaginé par Jeremy Bentham et repris plus tard par Michel Foucault, tout est vain en effet. Le panopticon, je ne sais pas comment on prononce à la grecque, panopticon, c'est un dispositif carcéral où seul le gardien qui est placé au centre peut voir simultanément, car disposé autour de lui de manière concentrique, de manière panoramique justement, toutes les cellules de tous les prisonniers en même temps. Cela rend ces derniers incapables de rien entreprendre concernant leur évasion, se sachant vus à chaque instant. Cela va même jusqu'à les empêcher de penser à leur évasion, sachant par avance que plane sur eux, à chaque instant, à tout moment, la possibilité d'être vu, sans que celui qui les voit ne puisse, lui, être découvert. La dissymétrie du rapport de pouvoir, induit par les positions « voir, être vu », rend caduque, avant même sa formation, toute velléité d'indépendance. C'est là l'essentiel, toute velléité d'indépendance, même mentale. Mais le panopticon de Jeremy Bentham est devenu pour nous, le temps aidant, l'image même de la suggestion généralisée de la population à la logique de la gestion politique, économique, culturelle, promue par cette société postmoderne, comme on l'appelle. Contrôle généralisé, réseaux sociaux, reconnaissance faciale, algorithmes personnalisés, intelligence artificielle, robotisation, prévision des patterns comportementaux, puces sous-cutanées, interfaces neuro-informatiques, nanotechnologies, assujettissement et arrimage du biologique à la sphère du numérique. Il est drôlement chouette le chemin que l'on a devant nous. quand je pense à tous ces abrutis qui vaticinent sur les fabuleux défis qu'il nous reste à relever. Et pour vous en donner un peu plus d'enthousiasme, un peu plus de cœur à l'ouvrage, chers auditeurs libres, vous aussi, voici venir des armes qui ne sont certes pas nouvelles, mais qui connaissent ces derniers temps de grandes avancées techniques. Les armes électromagnétiques, ou armes à énergie dirigée. De nulle part, sans être vu, sans même qu'on sache que l'on est en train de le faire, on peut cibler des systèmes informatiques, des systèmes électriques, des bâtiments, des populations ou des individus, et induire, sans les en informer, des comportements, des maladies, ou même donner la mort. Ça vous paraît de la science-fiction ? Mais ça n'en est pas. C'est l'ultime accomplissement du panopticon global de Benham, capable de faire taire n'importe qui, n'importe quand, sans avoir à se justifier, sans avoir même à se montrer. C'est l'impersonnalité absolue du pouvoir, de la contrainte et de la punition. C'est la garantie que tout le monde se surveillera désormais tout seul et se surveillera jusque dans ses pensées. Plus besoin de vigie humaine. Les quelques cas de comportement déviant seront repérés par des patterns comportementaux qui éveilleront l'intérêt des algorithmes. Les dits, aussi bien que les non-dits, seront significatifs. Fini donc les méthodes anciennes, les assassinats ciblés par drone, qui étaient la spécialité de François Hollande et de Barack Obama, chacun dans son style. Obsolète. Nous allons tous rentrer dans le rang. Déjà, nous avons perdu notre innocence. Le nihilisme a de beaux jours devant lui, et l'indicible horreur encore bien plus. Nous entrons dans l'âge de l'invisible rayon de la pensée qui tue, ou le retour de la sorcellerie par le chemin de la science.